Chapitre 29. Mai 1994. Je suis enceinte. Ils sont nus dans la chambre d'Étienne. Il retire son préservatif du bout des doigts. Clotilde est allongée près de lui, jambes repliées. Il observe sa bouche. Un rongeur. Il a toujours pensé ça. Que sa bouche est moche. Trop fine. Trop petite. En plus, elle met du rouge à lèvres. C'est comme si elle accentuait son défaut. Des dents blanches, bien alignées, mais qui avancent un peu. Des yeux bleus qu'elle poudre de mauve. Son point fort. Tout le monde regarde ses yeux. Les filles et les garçons. Un petit nez droit, fin. Une peau blanche, du lait. Il adore ses seins. Ses tétons rose pâle. Son ventre ferme. Son corps élancé de sportive. Pas très grande. Guère plus que Nina. Il compare toutes ses conquêtes à Nina. Jamais à Louise, c'est sa sœur. Une petite sœur, ça ne se compare pas. Nina, c'est autre chose qu'une sœur. Indéfinissable. Une amie d'enfance. C'est ce qu'il dit quand il la présente. Mon amie d'enfance. Ça le dispense d'explications du genre. C'est pas ma meuf. On est tout le temps collés, mais pas ensemble. Mon meilleur ami. C'est ce qu'il dit d'Adrien. Même s'il ne le pense pas. Adrien aussi, c'est autre chose. Avant, ils ne faisaient jamais rien tous les deux sans que Nina soit présente. Depuis l'année de ses 14 ans, Adrien vient chez lui tout seul pour jouer du synthé et faire des parties sur la Sega. La console est branchée à une télé, 24 heures sur 24 à côté de leur clavier. Il se pose sur un vieux canapé, sélectionne Cosmic Carnage ou Sonic et joue des heures durant. Quand Nina débarque, Étienne lui prête sa manette à contre-cœur, mais elle perd vite patience. Ce qui agace les deux garçons. Il tire une taffe sur son pétard, ferme les yeux, ne les rouvre que lorsque Clotilde murmure. « Je sais pas ce que j'ai foutu avec ma pilule. » Il marque un temps, couvre son sexe avec le drap, comme s'il était pudique tout à coup ou qu'il voulait mettre fin à leur proximité, leur intimité. Étienne pense à son père. Que va-t-il dire s'il l'apprend? Les insultes vont fuser. Il va pouvoir se lâcher. Jusqu'à présent, il s'est tu parce que Marie-Laure ne supporte pas qu'on compare Étienne à Paul-Émile. Mais si Marc découvre que son rejeton a mis une fille enceinte, il va se sentir libre d'envoyer les mots qui blessent. « Oh la merde, c'est la merde !» gémit Étienne. « Je sais, » répond Clotilde. « T'es sûre ?»« Oui. »« T'as vu un docteur ?»« Pas encore. » Faut faire vite. Je sais. On passe notre bac dans un mois. Tous les mercredis après-midi, Clotilde et Étienne font l'amour chez lui. Ils s'enferment, prennent leur temps, s'échauffent, expérimentent. Deux novices de 17 ans qui explorent, cherchent et découvrent le plaisir. Une récréation, rien d'autre. Pour l'amour, Étienne verra plus tard. Quand il imagine son avenir, il se voit vivre avec Nina et Adrien à Paris. C'est la première fois qu'il reste aussi longtemps avec une fille. 5 mois. C'est aussi la première fois qu'il prend son pied. Il ne réalise pas encore vraiment ce que Clotilde vient de lui dire. Le revers de la médaille, remarquerait son père. Le pétard le fait un peu planer. Une dualité en lui. Fuir et être fier. Il l'a mise enceinte. Quelque chose de l'ordre de la virilité. Qui lui ferait presque bomber le torse, et une angoisse grandissante. Être papa à 17 ans, le cauchemar. Un cauchemar qui signifierait rester à la comelle, être comme ses parents, partir tôt, rentrer tard, oublier ses rêves. Ce gosse lui prendrait sa place à la piscine, sur son skate, en boîte de nuit, et jouerait sur le synthétiseur et la Sega à sa place, pendant que lui trimerait pour le nourrir. Jamais. Nina, elle, ne pense qu'à ça, se marier, avoir des enfants et une maison. L'angoisse. Étienne ne la croit pas quand elle se projette dans cette vie factice. Il se dit que ça lui passera en grandissant et qu'ils vivront de liberté et d'eau fraîche tous les trois. Qu'ils feront sûrement des concerts un peu partout et peut-être même des tours du monde. Étienne se rhabille. Il doit retrouver Adrien et Nina chez elle pour réviser. Ils se calent des heures de fiches à apprendre et s'interrogent mutuellement. Sans eux, Étienne ne serait jamais passé en seconde et encore moins en première. Il n'en revient toujours pas d'être en terminale. Il en tire des bénéfices conséquents. Ses parents le laissent libre d'aller et venir, tant que les résultats sont bons. S'il veut partir à Paris l'année prochaine, il va falloir entrer dans une école supérieure, n'importe laquelle. Jamais ses parents ne le laisseront s'en aller pour faire de la musique. En réfléchissant et en regardant Navarro et Commissaire Moulin, il s'est dit qu'il aimerait devenir flic. Flic et musicien, c'est la classe. Et puis, il a un avantage sur les autres, son niveau en sport. Il observe Clotilde enfiler sa robe. Enceinte. Aussi surréaliste que quand Nina a eu ses règles à 10 ans. Un truc qui n'existe pas dans son monde. « Je te ramène », lui dit-il. Il croise Louise, assise sur le canapé, plongée dans sa lecture. Échange un bref. « Salut, à ce soir !» Étienne se demande comment on peut lire un roman quand on n'y est pas contraint et forcé, simplement pour le plaisir. Adrien et Louise se prêtent leurs bouquins. Étienne sent qu'il se passe des trucs entre sa sœur et Adrien, mais il fait comme si leur relation n'existait pas alors qu'elle saute aux yeux. Ne pas savoir. Il tend son casque à Clotilde, démarre sa moto, traverse les rues de la Comelle à vive allure. Elle s'agrippe à lui. Il a envie de freiner brusquement pour qu'elle tombe en arrière, qu'elle le lâche, n'existe plus. Il est affolé par ses pensées, et presque soulagé lorsqu'il la dépose devant chez elle. Avant de la quitter, il lui demande d'aller voir un toubib le plus vite possible. Il a du mal à croire cette histoire. Comment leur jeu sexuel aurait-il pu déboucher sur une grossesse ? Elle dit qu'elle prend la pilule et ils mettent des préservatifs. C'est vrai que parfois le machin glisse ou craque, mais ça a dû arriver une ou deux fois, pas plus. « Tu vas les rejoindre ?» demande Clotilde. Dans cette question, un reproche sous-entendu. « Lâche un peu tes deux potes, vous êtes toujours fourrés ensemble. » « Ouais, on résiste tous les trois. » Étienne s'enfuit littéralement chez Nina, ouvre la porte, monte à l'étage. Quand ils arrivent les uns chez les autres, ils ne frappent plus depuis des années. Ils sont comme chez eux. Les adultes sont habitués. Lorsqu'ils étaient petits, les parents se disaient que ça passerait, que c'était une période de l'enfance, qu'après on changeait, surtout au collège, qu'on se faisait d'autres amis. Mais comme ils sont au lycée et toujours là, on s'y est fait. C'est naturel. Ce sont des enfants qui sont comme ceux d'une même famille, qui grandissent ensemble, qui dorment à la maison, partagent les repas et les jours de congé. Un attachement très fort. Joséphine adore pleinement Étienne et Nina. Elle leur touche toujours les cheveux, les embrasse affectueusement, connaît leurs plats préférés, les prépare spécialement pour eux. Pierre s'est attaché à Adrien et Étienne, comme aux enfants d'un frère ou d'une sœur qu'il n'a jamais eus. Marie-Laure et Marc incluent toujours les deux autres dans les dîners et si Nina ou Adrien restent un moment sans passer, sans donner de nouvelles, un vide se fait ressentir. Ils se tutoient tous depuis des années. Chaque famille a vu les enfants des deux autres changer de peau et de regard, leur corps se métamorphoser. Étienne grimpe les marches deux à deux, pousse la porte de la chambre. Nina et Adrien sont déjà assis en tailleur par terre. Ils se posent des questions en anglais. Étienne lance un salut et s'allonge sur le lit. Il n'aime pas s'asseoir sur le sol. « Qu'est-ce que t'as ?» lui demande Nina. « T'es tout blanc. On dirait moi quand je viens de voir l'exorciste. » Étienne n'a pas envie d'en parler. Il a un peu honte. Étienne et Nina n'ont pas pour habitude de se cacher les choses. Ils se parlent ouvertement de tout ce qui les touche. Adrien les écoute mais reste discret, secret, intervient rarement dans leurs échanges. Contrairement aux deux autres, Adrien ne parle que de la détestation de son père, de ses lectures, de ses paroles de chansons, mais jamais de sexualité ni d'amour. Quand ils sont seuls, Nina lui rabâche. « Et toi, t'aimes qui ? Tu préfères les filles ou les garçons ? C'est vrai que t'es amoureux de Louise ? Tu l'as déjà embrassée ? Vous avez couché ?» À quoi Adrien répond toujours « Je t'aime, toi. » Alors Nina s'agace. « T'es chiant de jamais répondre. Tu noies le poisson. Moi, je te raconte tout. » Le samedi soir, ils vont au Club 4, une boîte de nuit située à 30 km de la Comelle. Ce sont leurs parents qui les y emmènent à tour de rôle et viennent les récupérer sur le parking à 4h du matin. Ils se préparent ensemble, choisissent leur tenue avec soin, dînent tôt, boivent quelques verres en douce. Ils se parfument et se brossent les dents côte à côte. Parfois, Adrien et Nina échangent leurs t-shirts. Étienne, beaucoup plus grand qu'eux, ne peut participer au troc. Nina se maquille légèrement sous l'œil des garçons. « Non mais pas trop, après ça fait vulgaire !» lui répète Étienne. Il regarde des magazines, se coiffe comme les rockstars, se passe le pot de gel. Étienne ramène ses cheveux blonds sur le côté. Son obsession est de ressembler à Kurt Cobain, qui vient de mourir. Adrien sèche ses cheveux noirs et bouclés la tête en bas. Il rêve de posséder le charisme de David Bowie. Nina soigne son carré court pour avoir la tête de Debbie Harry quand elle était jeune. Elle change de couleur de cheveux comme de chemise, expérimente toutes sortes de coupes. Lorsqu'ils se préparent chez Étienne, Louise les rejoint dans la salle de bain qui sent le parfum, la laque, la cigarette, la vodka et le shampoing. Elle aimerait aller au club 4 avec eux, trépigne, supplie un peu, mais ses parents refusent. « Tu n'as que 16 ans. Bientôt 17, et Adrien est majeur, il peut me surveiller. N'insiste pas. » 12 décembre 2017. Le club 4. Je me souviens que l'année de terminale, j'adorais y aller. J'y retrouvais les noceurs de ma classe et quelques jeunes de la région. Le club 4 était select, n'y entrait pas qui voulait. Chérubin, viande saoule, mal habillé n'était pas admis. Nous arrivions aux alentours de 23h, buvions un premier verre avec le ticket d'entrée qui nous donnait droit à 2 consommations. Ensuite, l'un d'entre nous avait toujours une bouteille sur lui et nous resservait sous le manteau. La patronne le savait mais fermait les yeux. De beaux jeunes dans son établissement, ça attirait du monde. Au club 4, une faune cosmopolite se côtoyait. Des lycéens, des vieux, des gays, des clubbeurs, des couples mariés, des travestis. Pour une boîte de province, c'était plutôt branché. Certains clients venaient même depuis Paris. Je me souviens qu'il y avait une backroom dans laquelle nous n'avons jamais mis les pieds, mais nous savions que des gens baisaient derrière le rideau rouge qui en masquait l'entrée. Avec le recul, je trouve complètement fou que nous ayons eu le droit de pénétrer dans ce lieu à la limite de la dépravation, alors que la plupart d'entre nous étaient mineurs et que c'était nos propres parents qui nous y déposaient, comme s'il s'agissait d'un nightclub normal. Ils ignoraient sans doute que là-bas, rien n'entrait dans la normalité. Notre grand jeu était de sniffer du poppers, en vente libre au bar. Toute la soirée, on se passait les petites bouteilles de main en main et on se regardait dans des miroirs. Nos perceptions étaient faussées, floutées, on perdait pied, on riait, on avait le sentiment de transgresser un interdit. La musique était excellente. Le DJ, un vibrant artiste qui mixait de la techno-trance la plupart du temps. Elle nous donnait des ailes, accélérait nos pulsations. Nous dansions serrés les uns contre les autres, ivres de sensations que nous découvrions à l'unisson. Nous jouions au grand, décomplexés et libres, alors que nous n'étions encore que des enfants qui s'embrassaient sur la bouche et commençaient à peine à explorer la sexualité. À 1h du matin, le DJ stoppait la musique électronique et les travestis moulés dans des robes à paillettes prenaient notre place sur la piste pour imiter les divas américaines. Gloria Gaynor, I Will Survive, Donna Summer, I Feel Love, Eruption, One Way Ticket. Après le spectacle, il y avait toujours une danse du tapis. Nina ne choisissait jamais Étienne dans la ronde quand elle venait d'être embrassée au centre du cercle. Trop dangereux, trop compliqué. Flirter ensemble, ce serait mettre leur amitié en péril. Et puis, ils se connaissaient trop intimement. Seuls les étrangers leur semblaient désirables, intrigants. Ils étaient comme ces vieux couples qui ne se regardent plus vraiment. Adrien ne participait jamais. Il restait assis au bar, observait Nina et Étienne de loin en souriant. Combien de filles et de garçons tendaient le foulard à Étienne. Il était le plus convoité, sans cesse au centre du cercle. Il s'en donnait à cœur joie, roulait des pelles aux filles, et s'il était ivre, déposait un baiser sur les lèvres des garçons. L'année de terminale, Étienne sortait avec Clotilde Marais. Raison de plus pour embrasser des filles pendant la danse du tapis. Le seul endroit où elle l'admettait. Bien qu'elle fasse parfois la gueule si le baiser s'éternisait. Ou qu'elle se venge en invitant à son tour un autre garçon. Ce qu'Étienne ne supportait pas non plus. Tromper devant les autres, plutôt crever. Nina n'avait toujours pas couché, comme on disait. Elle ne pensait qu'à cela. C'était son obsession. Elle voulait le faire avec un mec dont elle serait amoureuse. Surtout la première fois. Elle était folle d'un Alexandre, avec qui elle avait dû tout au plus échanger un « Salut, tu vas bien ?»«
Oui, et toi ?»«
Bonne soirée. » Des mots qui l'avaient laissée tremblante, béate et exsangue. Il débarquait toujours au Club 4 vers 2 heures du matin. Quand elle le devinait dans la pénombre, qu'elle découvrait sa silhouette, les vêtements qu'il portait, elle quittait la piste. Nina et lui se tournaient autour, s'arrangeaient pour n'être jamais loin l'un de l'autre. Mais il avait une copine qui ne le lâchait pas d'une semelle. Même quand il allait aux toilettes, elle se postait devant la porte comme un videur, devinant que Nina s'y faufilait pour éviter l'attente chez les filles. Une seule fois, ils s'étaient croisés. Alexandre avait collé et embrassé Nina contre le mur, un baiser sensuel qui l'avait laissé KO debout. Quand elle avait rouvert les yeux, il était déjà parti. Nina sentait les regards d'Alexandre sur elle. Il se souriait, s'espérait, se frôlait parfois la main ou l'épaule, mais la sangsue veillait. Ils étaient en couple depuis l'âge de 14 ans, le genre de jeunes très vieux, mariés dans l'âme, parce que ensemble depuis longtemps. « Il ne l'aime plus mais n'ose pas la quitter », avait laissé entendre Nina à une copine qu'ils avaient en commun. Nina adorait se raconter cette histoire d'amour impossible, que si Alexandre était libre, il s'aimerait. Alexandre avait 21 ans, étudiait le droit à Dijon et vivait avec peau de colle. Au fond d'elle, Nina, ça la faisait rêver. Un appartement, un canapé rouge, une cuisine équipée et un prince charmant en kit. Elle répétait à qui voulait l'entendre qu'après le lycée, elle partirait avec Étienne et Adrien à Paris faire la vie. Mais en son fort intérieur, elle oscillait en permanence. Un jour, elle rêvait d'une histoire d'amour livrée avec enfant et mode d'emploi, et l'autre, d'une liberté sans entrave avec des amants, autant d'amants qu'elle visiterait de pays, chanterait et dessinerait sa vie d'artiste. Que ses rêves passent d'un camp à l'autre, une chose était sûre, personne ne la séparerait d'Adrien et Étienne.